Mekesepastil.
Oh, mekesepastil.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 10 avril. Aujourd'hui, on va parler de l'eau, du vent, de l'air, on va parler éolienne, les usines d'embouteillage d'eau et la filière toujours, notamment dans le Gard, sur la Sellette avec de nouvelles fermetures d'usines annoncées. Et on va parler data center, IA, notamment à travers les problématiques énergétiques qui leur sont liées de tous les cas et qui ne sont pas partis pour s'arrêter malheureusement. Qu'est-ce que j'ai doute sous la table, sur le coude? Bon, on verra ça en faisant, mais ça sera grosso modo ça l'idée. Allez, on commence avec ces infos sur les parcs éoliens qui décidément n'ont pas le vent en poupe aujourd'hui. Super jeu de mots, je m'en félicite. C'est dans l'Hérault encore qu'un parc éolien est mis à l'arrêt, c'est celui de Bernague. Il va devoir arrêter de fonctionner et on est à un an après ce qui a déclenché cet arrêt, à savoir la mort d'un aigle royal à cause donc des pales des éoliennes. Ça fait juste 3 jours hein, que l'arrêt du parc éolien d'Aumelas a été demandé, lui, pour 4 mois, le temps que les faucons cresseraient l'être. Viennent nidifier. Eh bien, le tribunal judiciaire de Montpellier ordonne donc à nouveau, c'était hier, aux exploitants d'un parc éolien, celui de Bernague, d'arrêter toute activité pendant un an. Et ce, donc, suite à la mort d'un aigle royal qui est aussi une espèce protégée. Ça fait 2 parcs éoliens mis au point mort en moins d'une semaine dans l'Hérault. Cette fois-ci, c'est la société Énergie Renouvelable du Languedoc, ERL, qui est une filiale du groupe Valeco, qui a donc été jugée responsable de la mort de cet aigle royal au parc éolien de Bernague. On est dans le nord du département, au-dessus de l'Audève. Le tribunal a donc ordonné une exécution provisoire de cette mesure. Vous vous rappelez les fameuses exécutions provisoires qui font que même si appel, eh ben la peine est effective dès le début. Hein. C'est la même chose pour Marine Le Pen. Et ce, donc dans ce cas-là aussi, pour éviter la réitération de l'infraction. Donc pour pas qu'il y ait de nouveaux drames sur les espèces d'aigles en attendant qu'éventuellement un autre jugement soit rendu. L'entreprise exploite 7 éoliennes sur le massif de l'Escandorgue, on est sur les contreforts du massif central, et elle a été condamnée à 200 000 euros d'amende, dont 100 000 avec sursis. Son dirigeant, François Domard, lui a pris une amende de 40 000 euros, dont 20 000 avec sursis. Les faits se sont passés le 10 janvier 2023. C'est un aigle royal qui était tracé, hein, muni d'un GPS. Et il a heurté à près de 50 km/h la pale d'une des éoliennes du parc. C'est en tout cas ce qu'a révélé le rapport d'enquête de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Cette police de l'environnement avait ainsi mis en évidence un dysfonctionnement du système de détection des oiseaux, un système qui se met en place normalement lors de l'approche de l'aigle, qui après avoir été percuté a chuté au sol et il a été retrouvé seulement 6 jours plus tard mort. Cet oiseau, cet aigle royal, c'était le mâle reproducteur d'un couple qui avait installé son nid depuis 2008 à 3 km de ce lieu où les éoliennes ont été construites par ERL en 2016. Selon France Nature Environnement, c'est une des 6 associations qui s'est portée civile dans cette affaire. L'entreprise et son dirigeant doivent en plus donc verser un total de 35 000 euros aux 6 associations en titre de dommages et intérêts, notamment pour les frais de justice, et 3 000 euros au titre du réparation du préjudice écologique. 3 000 euros, c'est visiblement le coût d'un aigle royal, et 1 000 pour des frais de justice à chacune donc de ces associations. Et donc, je vous le rappelais en introduction, ce lundi, une décision là inédite sur le plan pénal avait déjà eu lieu au tribunal de Montpellier puisqu'il avait ordonné l'arrêt pour 4 mois de 31 éoliennes du parc d'Aumelas pendant la période de présence sur site du Faucon Cresserellette. Et EDF s'était pris de très lourdes amendes aussi, c'était la première fois. EDF Renouvelable pour elle et 9 de ses filiales, donc jugées responsables là de la mort de 160 oiseaux d'espèces protégées.
C'était vraiment très intéressant.
Gestion de l'eau, toujours dans l'Hérault. Cette fois-ci, c'est le collectif Cohorde Eau 34 qui dénonce des discussions antidémocratiques au siège du département. Ce collectif s'est rassemblé donc ce mardi 8 avril. Et donc Cohorde Eau 34 a montré son mécontentement puisque se tenait ce jour-là dans les murs, dans les salles de réunion du département de l'Hérault, un comité stratégique sur l'évaluation de 7 projets de retenues hivernales. Ça, ce sont les termes retenus par la collectivité. Le collectif, lui, utilise le mot plus connu de « méga-bassine ». Et ce collectif Cohorde Eau 34 est constitué de plusieurs associations et il maintient donc qu'il faut parler de méga-bassines puisque en termes des volumes d'eau qui seront stockés sur ces différents bassins, on parle de 170 000 à 2 millions de mètres cubes d'eau sur des surfaces allant de 12 à 10 hectares. 7 projets donc initiaux, sur ceux-ci 4 ont finalement été retenus par le département, rapporte le Midi Libre qui a eu lui les infos de ce qui s'est dit dans ce comité. Ce collectif Cohorde Eau 34 s'est formé il y a près de 2 ans et se pose donc en défenseur de l'eau, en dénonçant notamment l'accaparement et la privatisation d'un bien commun qui devrait faire l'objet de choix collectifs et partagés pour la gestion de la ressource. Ces méga-bassines, explique un des militants présents sur place, serviront majoritairement à la viticulture. Et il reconnaît d'ailleurs que les projets ne prévoient pas un pompage des nappes phréatiques, ce qui était le cas des méga-bassines fortement critiquées dans les Deux-Sèvres par exemple, donc plutôt dans l'ouest de la France, mais cette eau en revanche sera prise sur divers fleuves et canaux, donc pas disponible pour d'autres usages. Devant les grilles donc, du conseil départemental ce mardi, en plus des militants du collectif qui étaient présents à une 60aine, une horde d'agents de sécurité et de policiers s'était déployée pour les empêcher de pénétrer dans l'hémicycle. « On veut rentrer », d'ailleurs, se sont exclamés ces militants. Pour un de ceux-ci présents, il est évident que des décisions majeures concernant la gestion de l'eau de ce type devraient inclure les citoyens. Le collectif a, par le passé, souvent été invité aux différentes réunions de concertation ou des discussions qui étaient organisées par le département au sujet de tous ces projets. Mais là, pour le cas du comité stratégique qui s'est tenu ce 8 avril, ils n'ont pas été invités. Et la presse, d'ailleurs, non plus. Au motif, d'après le département, qu'un communiqué serait envoyé à la fin de la réunion. Ça interroge sur la démocratie, questionne Mourvèdre, un des militants de Cordeau 34. D'ailleurs, dans ce collectif, il y a aussi des agriculteurs, dont Céline, qui est elle-même viticultrice, et qui se dit outrée par cette méthode. Elle dénonce des décisions arbitraires. Anne-Marie, qui fait partie de ce collectif, renchérit en disant « ils prennent notre avis alors que leurs projets sont déjà bien ficelés ». Et elle ajoute « ils utilisent même nos arguments pour faire du greenwashing par-dessus. Ce n'est pas comme ça la démocratie ». La coordination Eau 34 envisage donc de mener des recours juridiques et une manifestation est prévue le 24 mai prochain. Et pour ce qui s'est dit dans cette réunion, le département de l'Hérault a été contacté par les journalistes du Point, le média Le Point avec un G, et ils ont déclaré qu'ils ne faisaient pas partie des médias accrédités pour recevoir ce fameux communiqué de presse. Donc même pour avoir le communiqué de presse, visiblement, il faut être dans les petits papiers.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
On reste dans l'eau avec des problématiques plutôt industrielles et on va du côté du Gard cette fois-ci et de Vergèze où c'est une nouvelle usine qui cette fois-ci va fermer mais c'est celle qui fabrique des bouteilles de verre. C'est l'usine Owens Illinois, c'est peut-être faut dire, une verrerie donc et qui est là aussi située à Vergèze. Les salariés sont assommés suite à l'annonce de la fermeture de cette usine. Ça représente 164 travailleurs licenciés à Vergèze dans le Gard. Et une usine de plus qui ferme ses portes. Dans un communiqué, la CGT dénonce une hécatombe sociale opérée par ce géant américain du verre d'emballage, donc l'entreprise Owens Illinois. L'entreprise supprime d'ailleurs plus de 300 postes en France, dont plus de la moitié sur le site de Vergèze. Le motif invoqué, puisqu'il fabrique des bouteilles, c'est le déclin du marché du vin, qui utilise les bouteilles produites par cette société. et Owens, Illinois, parle aussi d'une surcapacité et une forte concurrence. À Vergès, par exemple, cette usine a 4 lignes de production. Les 3 quarts vont pour l'usine Perrier à côté, qui est elle aussi sur la sellette, on va en parler juste après. Donc les petites bouteilles, hein, 20, 33 et 75 centilitres. Et le reste de l'usine part pour des bouteilles de Heineken. Donc a priori, pas de vin pour cette usine. L'entreprise Owens Illinois emploie 164 salariés, donc tous a priori licenciés. Mais à cela, il faut ajouter des emplois indirects, hein, tous les sous-traitants, tout ce qui est logistique, nettoyage ou encore gardiennage. Ça représente pour l'usine de Vergès environ entre 200 et 300 salariés. La CGT appelle donc à une mobilisation générale. Le géant mondial du verre Owens Illinois sacrifie une fois de plus l'humain sur l'autel de la rentabilité, dénonce ce syndicat dans le communiqué qui vient de sortir. 556 postes sont touchés donc en France, dont 316 purement supprimés. Et pour l'usine de Vergès dans le Gard, c'est la sentence la plus lourde avec fermeture complète de l'usine. 164 personnes sur le carreau, je vous le disais. La CGT exige le maintien des sites et des emplois et des garanties sociales fortes pour tous les salariés concernés. Les syndicats se réunissaient hier à Paris. Une réunion était prévue ce matin sur le site de l'usine à Vergès. Au total, cette entreprise emploie en France 2200 personnes, avec des sites en Gironde, dans les Vosges ou dans le Puy-de-Dôme. Et par exemple, pour l'usine de verre en Gironde, la bien nommée Verre, le four 1 s'est arrêté avec 81 suppressions de postes à la clé. Et dans le même temps, eh bien, la commission d'enquête sur les eaux en bouteille continue de travailler malgré des réticences, notamment d'Alexis Koller, pour répondre aux enquêteurs. L'ARS Occitanie et le préfet du Gard pourraient, de leur côté, parfaitement interdire la commercialisation d'eau minérale naturelle Perrier, qui est issue des sources gardoises de Vergès, puisque c'était hier que Laurent Freix, le directeur général de Nestlé, a annoncé devant les sénateurs, dans le cadre de cette commission d'enquête du Sénat, l'avis défavorable qui a été rendu par les hydrogéologues sur donc la qualité des eaux de Perrier. Est-ce que cette information, justement, est à prendre très au sérieux sur l'avenir de la source Perrier de Vergès ? Ça semble en tout cas en prendre le chemin. Le patron du groupe Nestlé donc a fait savoir hier ses inquiétudes suite à l'étude réalisée par des hydrogéologues indépendants, ce qui a été fait sur demande de l'État, pour justement vérifier la pureté des sources, qui est quand même le critère essentiel pour commercialiser de l'eau minérale naturelle, et ce qui permet d'éviter tous les traitements qui ont été faits de manière un petit peu secrète et qui sont sur la sellette en ce moment pendant cette commission d'enquête. Nous sommes tous déçus, mais nous restons déterminés à trouver des solutions, a répété le patron Laurent Freix devant les sénateurs. Selon les conclusions du rapport, donc l'ARS Occitanie et le préfet d'Igard, s'ils les suivaient, pourraient parfaitement interdire tout bonnement la commercialisation d'eau Perrier issue de ces sources. Et même si l'entreprise Nestlé pourrait continuer à commercialiser ses bouteilles, il faudrait retirer l'appellation eau minérale naturelle qui figure dessus. En attendant, le PDG de Nestlé annonce vouloir diligenter une enquête interne pour faire la lumière sur les pratiques passées. On rappelle qu'une enquête est ouverte par le tribunal de Paris contre le groupe pour tromperie. Et a priori, au niveau de l'État, on était au courant depuis un bon moment.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On parle toujours d'énergie, mais cette fois-ci électrique, liée à la consommation d'Internet et notamment de l'intelligence artificielle qui occupe beaucoup des débats et qui a l'air de faire consensus. En tout cas, si ça continue comme ça, les centres de données, les data centers, d'ici 2030 devraient doubler leur consommation d'électricité. L'intelligence artificielle pourrait bien transformer le secteur de l'énergie donc au cours de la prochaine décennie, voire même dans les prochaines 5 années. C'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui vient d'être publié aujourd'hui. Elle estime qu'en 2030, les data centers consommeront près de 3% de l'électricité mondiale, l'équivalent de ce que consomme le Japon aujourd'hui. Mais attention, cette électricité mondiale et ces 3% ne seront pas distribués de manière équitable sur la planète. C'est en tout cas un défi sûr pour la sécurité énergétique et un facteur de hausse des émissions de dioxyde de carbone. C'est ce qu'a en tout cas chiffré donc ce rapport de l'AIE aujourd'hui, jeudi 10 avril. Les projections ont été faites sur le développement basé sur les développements récents de l'IA générative. Toutes ces technologies qui créent des textes et des images nécessitant des capacités de calcul colossales pour traiter les informations accumulées dans des bases de données gigantesques. Voilà, et tout ça donc pour faire des images amusantes ou des affiches sans trop se fouler, pour ce que je peux en voir en tout cas sur les réseaux sociaux. En 2024, ces infrastructures ne représentaient qu'environ 1,5% de la consommation électrique mondiale. On est sur 415 TWh, mais on était déjà passé à 12% de plus par an sur les 5 dernières années, et ce n'est donc pas fini, puisque la demande d'électricité des centres de données dans le monde entier devrait plus que doubler d'ici 2030. On devrait atteindre le chiffre de 945 TWh, ce qui fait donc un peu plus que tout ce que consomme le Japon en électricité aujourd'hui, pour donner un petit peu un ordre de grandeur. D'ici 2030, en tout cas selon ces prévisions, les centres de données consommeront un peu moins de 3% de l'électricité globale de la planète. Localement, un centre de données de 100 MW peut consommer autant d'électricité que 100 000 ménages par an. Mais demain, les plus grands centres en construction, puisque c'est le boom de la construction des data centers, ça pourrait consommer 20 fois plus, environ l'équivalent de ce que consomment 2 millions de foyers aujourd'hui. Dans son rapport de 302 pages, le premier qui a été consacré à l'intelligence artificielle, cette agence de l'énergie, donc qui dépend de l'OCDE, se penche, selon elle, sur une des questions énergétiques les plus urgentes et les moins bien comprises du jour. L'intelligence artificielle pourrait transformer le secteur de l'énergie au cours de cette décennie, faisant exploser la demande électrique des centres de données dans le monde entier, tout en offrant des possibilités considérables de réduction des coûts, d'amélioration de la compétitivité et de réduction des émissions de CO2. Alors ça, c'est ce que dit l'AIE. Ça reste à voir. En tout cas, les centres de données sont inégalement répartis dans le monde. Ils sont concentrés dans quelques régions particulières à l'intérieur d'un pays, en général à côté des villes. Ça soulève de gros défis en termes d'approvisionnement et de dimensionnement, notamment du réseau électrique, et d'autres questions dont je vous parlerai dans l'article qui suit. En tout cas, pour l'augmentation de cette consommation, elle sera donc particulièrement marquée pour certains pays, par exemple les États-Unis, où les data centers sont pas loin de représenter près de la moitié aujourd'hui de la demande électrique supplémentaire. Ensemble, si on met les États-Unis, l'Europe et la Chine, ça fait environ 85% de la consommation électrique des data centers dans le monde. Le premier défi pour cette industrie, c'est donc de trouver de l'électricité pas chère et en quantité. Selon l'AIE, un large éventail de sources d'énergie sera utilisé pour répondre à ces besoins en augmentation, y compris le charbon, qui, par exemple, aujourd'hui, fournit déjà 30% des besoins électriques des centres de données. Comme quoi, l'hypertechnologie et les vieilles technologies du 19e siècle marchent main dans la main. C'est ça, la transition énergétique aussi. En tout cas, dans ce rapport, on dit que les énergies renouvelables et le gaz naturel devraient prendre la tête en raison de leur compétitivité en termes de coûts et de leur disponibilité sur les marchés clés. Ça, ce sont aussi donc des estimations pour l'avenir. Et donc, fatalement, cette course aux data centers entraînera forcément mathématiquement une hausse des émissions liées à la consommation électrique, puisqu'on parle d'une augmentation de 67%. Ça fait 180 millions de tonnes de CO2 aujourd'hui, et on serait sur 300 millions d'ici 2035, ce qui reste malgré tout assez minime si on compare à l'échelle des émissions mondiales estimées en 2024. On est sur 41 milliards de tonnes de CO2 pour aujourd'hui. Manière de dire que bon, ça augmente, mais il y a quand même d'autres secteurs aussi qu'il faudrait continuer à essayer de tempérer. Donc dans ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie, on peut lire ceci. Bien que ces émissions restent inférieures à 1,5% des émissions totales de l'énergie pendant cette période, les data centers sont parmi les sources qui augmentent le plus rapidement. Donc pour eux, les craintes que l'IA accélère le changement climatique semblent surévaluées, tout comme les attentes selon lesquelles l'IA seule permettrait de résoudre le problème, puisque c'est aussi une espèce de fuite en avant technosolutionniste, comme on dit, qui accompagne le développement de ces nouvelles technologies. Autrement dit, selon l'AIE, l'intelligence artificielle n'est pas une solution miracle dans la transition énergétique et une politique proactive reste nécessaire.
Quoi ? Ouais, vas-y, prends un avocat, ok, tu vas voir. Ok, ouais, c'est parti, allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on y va, c'est parti.
Ouais, je sais pas ce qu'il foutait là, lui. Allez, on continue. Aux abords des villes, justement, on parle des data centers qui poussent comme des champignons, je vous l'ai dit, c'est surtout dans les zones urbaines. Et une question se pose, la question du refroidissement de ces centres qui pourrait peut-être faire une source de chauffage pour nombre de villes. Ça serait pas mal, mais visiblement, Personne ne se met dans cette dynamique et c'est un gros gâchis. La France aujourd'hui compte déjà 300 de ces entrepôts, hein, des data centers où sont alignés des serveurs informatiques. Ce nombre va encore grandir, je viens de vous le dire, hein, puisque notamment rien qu'en France, il y a 35 nouveaux projets de centres qui viennent d'être annoncés par le gouvernement, et un projet de loi qui s'appelle Simplification, qui est examiné à l'Assemblée nationale en ce moment jusqu'à demain, doit justement modifier le code de l'urbanisme pour libérer encore plus ce secteur, avec notamment un raccourcissement des délais de consultation, des dérogations environnementales, des communes qui sont écartées de la rédaction des plans d'urbanisme. L'État pourra donc passer en force sur tous ces projets de data centers qui seront estampillés intérêt national majeur et donc toutes les réglementations, notamment environnementales ou urbanistiques, sont mises de côté dans ce cas-là. Cette multiplication des data centers, donc, qui vise à répondre aux besoins de l'intelligence artificielle, se retrouve d'autant plus problématique que la tendance est au gigantisme. C'est ce qu'expliquait RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité, en décembre dernier. Il n'est plus rare de recevoir des demandes à hauteur de 100 à 200 MW, ce qui fait l'équivalent de la consommation électrique de villes comme Rouen ou Bordeaux. Une croissance, donc vous avez un entrepôt de serveurs qui consomme autant qu'une ville entière. Hein. Cette croissance est accueillie avec enthousiasme par la France, qui veut se positionner en nouvel Eldorado numérique, à l'heure où d'autres villes, comme Amsterdam ou Dublin, se retrouvent terre d'accueil de nombreux data centers depuis longtemps, eh bien elles décrètent justement des moratoires pour ne pas fragiliser leur système électrique. Ces énormes structures, donc ces data centers, ont besoin d'être maintenus à une température constante. Ils consomment énormément d'électricité, ils chauffent, mais il ne faut pas qu'ils chauffent trop. En gros, il faut qu'ils restent autour des 30 degrés Celsius. Donc d'énormes systèmes de refroidissement sont déployés, notamment en utilisant pas mal d'eau. Ils captent une quantité colossale de chaleur, et c'est une chaleur qu'on dit fatale, qui finit par se dissiper dans la nature. Or, cette chaleur pourrait pourtant être récupérée et utilisée notamment pour chauffer de l'eau ou des bâtiments si les centres, les data centers se trouvaient à proximité d'une usine, par exemple, ou d'une zone urbaine. Eh bien, en Île-de-France, où il y en a le principal nombre de data centers sont installés, ceux qui sont déjà là ou en projet depuis 4 ans auraient ainsi pu alimenter en chaleur au minimum 1 million de logements. C'est ce qu'estime l'autorité environnementale d'Île-de-France, qui est donc en charge d'analyser la plupart de ces projets. Quant aux fameux 35 nouveaux data centers qui sont en projet, ils vont en tout générer plus de 100 TWh de chaleur par an, ce qui fait 2,5 fois les besoins en chauffage de tous les logements du Grand Paris. Donc on pourrait chauffer toute l'agglomération parisienne avec rien que ces nouveaux data centers. C'est ce qu'explique Benjamin Frémaux, président de l'entreprise IDEX, spécialisée dans le secteur. Mais tous ces spécialistes s'expriment, mais visiblement, rien n'est fait, ou en tout cas, rien n'est organisé dans ce sens. Et pour la transition énergétique, ça ne serait pas un détail d'économiser toute cette chaleur, puisqu'elle est, on dit, décarbonée. 47% des consommations énergétiques françaises et 18% des émissions nationales de gaz à effet de serre sont dues, en effet, à la gestion des bâtiments, à cause des besoins en chauffage principalement. Les réseaux de chaleur de ville, ce sont tous ces tuyaux qui courent sous les rues et qui servent à transporter de l'eau chaude au pied des immeubles. Aujourd'hui, ça fait que 2,7 millions de logements peuvent se chauffer de manière assez peu chère. Mais ces réseaux turbinent encore aujourd'hui à partir de 38% d'énergie fossile, principalement du gaz. Donc, vous l'aurez compris, ces data centers pourraient au moins déjà, dans un premier temps, servir à chauffer des bâtiments. Et d'ailleurs, la loi oblige depuis 2021 les industriels, quand ils ouvrent un centre de données, une étude sur la possibilité de récupérer cette chaleur fatale. Eh bien, l'obligation, elle est uniquement déclarative. Les constructeurs promeuvent des choses intéressantes sur le papier, mais dans les faits, ça n'est jamais réalisé. C'est ce que constate le président de l'autorité environnementale d'Île-de-France, Philippe Schmitt. Un exemple, dans l'Essonne, à Marcoussis, où il y a une centrale aussi, le site Datafor héberge une vingtaine de data centers. Une extension est encore à l'étude, avec 60 MW de puissance, 48 nouveaux groupes électrogènes qui pourront être activés en cas de panne électrique, et un total de 87 cuves et 3,8 millions de litres de fuel enterrés, avec en plus un risque de pollution atmosphérique. Aucun projet, là, de réemploi de la chaleur fatale n'est mis en place. Et pourtant, l'autorité environnementale a demandé en 2023 explicitement au préfet de n'autoriser ce projet qu'à condition que la chaleur soit récupérée pour faire cesser le gaspillage, mais l'avis de l'autorité environnementale a tout bonnement été ignoré. Les obstacles sont donc nombreux. Les data centers sont souvent éloignés des centres-villes où le foncier est le plus cher. Et la chaleur est difficile à faire voyager dans des tuyaux. Elle se perd, surtout qu'on n'est pas sur des grosses températures. Hein. Je vous le disais, c'est 30 degrés. Il y a 4 méthodes de refroidissement dans ces data centers et elles ne permettent pas toutes une récupération de la chaleur. Le liquide qui sort de ces vieux data centers, le liquide refroidissant, n'est pas suffisamment chaud pour alimenter un réseau urbain. Il faut donc, si on veut l'utiliser, prévoir en plus une mini centrale pour rehausser la température. Ça coûte cher et ça devrait être c'est des choses qui doivent être anticipées avant la construction du centre. Or, dans les délais d'urbanisme notamment, c'est rarement fait. Donc cette opération, finalement, n'est pas lucrative pour les industriels et ils laissent tomber. Pour eux, la chaleur est un déchet. Si vous arrivez à la vendre, c'est bien pour votre bilan environnemental, mais ça n'est pas ça qui va consolider le business model. Il n'y a pas de bâtiment construit qui soit plus cher qu'un data center, explique un consultant justement spécialisé là-dedans. Lui, il anime un groupe qui s'appelle Data Centers en Transition. C'est un groupe de réflexion, justement, qui réunit des exploitants et des équipementiers pour l'heure, dans des très rares cas où cette chaleur est récupérée. D'ailleurs, souvent, il l'offre gratuitement sur des installations à côté. Donc voilà, un gros sujet dont s'emparent plusieurs associations citoyennes qui militent sur les conséquences de ces technologies. On peut citer la Quadrature du Net, qui fait partie de ces associations, qui a lancé une mobilisation nationale, justement, contre ce projet de loi de simplification. Il réclame un moratoire de 2 ans, le temps qu'un débat public puisse se tenir sur la manière de les encadrer. Ces projets de data centers doivent être intégrés dans une vision de la ville. Les collectivités doivent décider de mettre ces data centers là où ils peuvent être utiles et ne pas les repousser plus loin que ce qui les embête. Sauf que du côté des communes, les maires notamment, ils n'ont pas intérêt à être trop regardants et ils n'ont pas trop intérêt à chiffonner les promoteurs, puisque quand un data center s'installe sur une commune, les retombées fiscales sont très importantes. Sortir donc de ce grand gâchis d'énergie et de chaleur reste un enjeu considérable. RTE table, je vous le disais, sur un triplement de la consommation électrique des data centers français. Pour la France, d'ici 2035, ça représenterait 4% de la consommation électrique. Ça fait entre 23 et 28 TWh. C'est donc une pression considérable sur le système électrique, au moment même où, pour décarboner l'économie, de nombreux secteurs vont devoir à leur tour passer à l'électrique.
L'éco-dépisteur 209 est un robot policier entièrement autonome. Il est à l'heure actuelle programmé pour le maintien de l'ordre, mais ce n'est qu'un commencement.
Veuillez lâcher votre arme. Vous êtes en infraction caractérisée de l'article 113, chapitre 9 du Code pénal français.
Voilà, c'est pas Terminator, c'est Robocop. J'aime bien pour illustrer l'avenir de l'IA. On va se quitter, les amis, en musique. Et on va célébrer un musicien qui vient de décéder. C'est Dave Allen. C'était le bassiste du groupe Gang of Four, un des groupes phares du mouvement post-punk. Il est décédé chez lui ce samedi à l'âge de 69 ans. Il avait rejoint le fameux groupe, le quatuor John King, Andy Gill et Hugo Burnham à l'aube des années 80. Pour travailler sur leur premier album sorti en 79. L'album s'appelle Entertainment et il a ensuite enregistré aussi le second disque du groupe Solid Gold 2 ans plus tard. Il rejoint le guitariste Andy Gill qui est mort lui en 2020 et on s'écoute donc présent sur ce premier album des Gang of Four, Natural's Not In. Un morceau et un album qui chantait les affres de la société de consommation, la classe moyenne et ses loisirs, le tourisme, bref, les années 80 dans toute leur splendeur, en Angleterre, voilà, post-punk, is not dead. Et franchement, écoutez-vous, tout l'album de Gang of Four, c'est une tuerie.
I'm
marchés des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.